Christian Salençon est prêtre du diocèse de Nîmes. Il enseigne à l'Institut des sciences et théologie des religions de Marseille. Il est spécialiste du dialogue islamo-chrétien et c'est un des meilleurs connaisseurs de l'histoire des moines de Tibirine, assassinés en Algérie en 1996, et du testament spirituel de leur prieur, Christian de Chergé. Je suis journaliste et je suis allée l'interroger chez lui, à Nîmes, sur les questions que pose aujourd'hui l'espace méditerranéen et sur la théologie développée de concert autour de la Méditerranée par des croyants, juifs, chrétiens ou musulmans. Comment cette réflexion théologique peut-elle éclairer les principaux défis à relever dans cet espace si particulier? C'est l'objet de cette série de podcasts. Je m'appelle Véronique Alzieux et vous écoutez La Méditerranée, une géographie de la rencontre. Deuxième épisode, un espace qui révèle une humanité en relation.
L'anthropologie méditerranéenne, c'est une question très intéressante. On travaille dans l'éducation avec des gens du pourtour méditerranéen. Qu'est-ce que c'est qu'éduquer des enfants et des jeunes aujourd'hui en Méditerranée et comme méditerranéens? Et en particulier, je travaille dans un programme qui a été monté avec Naïla Tabara, une théologienne musulmane libanaise, une de mes amies. On a monté un projet Liban, Irak, Marseille et puis en France, ceux qui veulent. Et c'est un projet de formation de jeunes de 3e, 2e, sur la citoyenneté inclusive, ça c'est le jargon d'aujourd'hui. En fait, ça veut dire sur la capacité de se connaître soi-même et de s'ouvrir aux autres et de vivre avec les autres et de vivre dans des sociétés plurielles. Voilà, donc ça m'intéresse beaucoup. Mais l'éducation est fondée sur une anthropologie.
Et vous pensez qu'il y a une anthropologie propre à la Méditerranée ?
Eh bien, figurez-vous que je pense qu'il y a des éléments d'anthropologie propre à la Méditerranée, oui. Je pense qu'il y a des éléments. Je ne dis pas une anthropologie propre, unique, et qu'on trouverait nulle part ailleurs, etc. Il ne s'agit pas du tout de ça, d'ailleurs.
Mais avec des caractéristiques particulières.
Vraiment des caractéristiques particulières, hein, qui se donnent à voir dans beaucoup de choses, hein. On se moque d'ailleurs des fois de nous, là-dessus. Il y a un art de vivre, par exemple, le méditerranéen. Il n'est pas idéalisé. Il a ses grandeurs et ses limites, comme toutes les anthropologies. Mais il y a un art de vivre qui est lié aussi au terroir, au climat, à tout ça. Mais qui fait que, par exemple les Méditerranéens, ils aiment bien vivre dehors. Vivre avec la nature, dans un contact avec la nature, qui nous est facilité parce que le temps y est souvent clément pendant une grande partie de l'année. Donc on a cet art de vivre. Encore une fois, ce n'est pas idéalisé. Donc je disais aussi la liberté. On a un certain sens de la liberté.
C'est-à-dire la liberté.
La liberté individuelle. Eh bien, c'est-à-dire qu'on n'aime pas trop les règles. Il ne nous en faut pas trop. C'est d'abord, si on nous en met trop des règles, on se débrouille pour les...
Les contourner.
Les contourner, voilà. Les contourner ou carrément ne pas en tenir compte. Voilà. Ça, c'est limite, hein. Et puis, on se retrouve... Moi, par exemple, si je vais en Grèce, hein, j'adore la Grèce. Si je vais en Grèce ou si je vais dans le Maghreb, Je suis chez moi. C'est mes compatriotes. Je suis à l'aise dans la manière de vivre, dans le rythme, dans la manière de prendre le temps.
Il n'y a pas de rupture.
J'ai pas de rupture.
Avec évidemment des nuances.
Voilà.
Mais
si je monte un peu plus haut en France,
vous sentez plus étranger.
Je suis plus étranger en France que je ne le suis en Grèce ou en Italie. Et ça ne tient pas à quelque animosité ou je ne sais pas quoi qu'il pourrait y avoir. Ça tient à une manière d'être, à un rythme de vie, à une manière de s'habiller, à une manière de manger.
Il y a des dénominateurs communs.
Ça dit des choses de la manière dont on conçoit l'être humain, dont on conçoit le rapport à la société, dont on conçoit le rapport aux autres. Encore une fois, quand je dis ça, je n'idéalise rien. Parce que les rapports peuvent être violents aussi, peuvent être durs. Pensez à la Corse, par exemple, qui aujourd'hui s'apaise, mais qui a été tellement violente. Pensez à toutes ces constructions qu'il y a dans des pays comme le Magne, par exemple, au bas du Péloponnèse, où les gens ils ont fait des maisons. C'est des tours, les maisons, ils habitent des tours, tellement que c'était dangereux pour se protéger. On trouve ça aussi en Italie, d'ailleurs. Voilà. C'est pas toujours facile, le rapport de voisinage peut être compliqué. Donc c'est un espace anthropologique, oui, il y a une anthropologie. Alors j'aimerais bien la travailler beaucoup plus, parce que les anthropologies, elles sont porteuses elles-mêmes d'un sens de la vie. Et comment vous voulez faire de la théologie si vous n'intéressez pas au sens de la vie que les autres portent? Voilà, il faut commencer par là. Alors un des traits, si maintenant j'élargis un petit peu plus, les Méditerranéens se sont déplacés, ils se sont beaucoup déplacés, d'une rive à l'autre,
aller explorer ce qu'il y avait de l'autre côté.
Et ce déplacement et ce voisinage des populations, cette imbrication même des populations, fait partie aussi de l'identité méditerranéenne, de quelque chose de méditerranéen. Encore une fois, ce n'est pas une identité exclusive, on peut le trouver ailleurs. Si vous prenez par exemple le mythe de fondation de Marseille, c'est un beau grec qui arrive à Marseille avec une troupe, et là il y a Gytis, la princesse locale, qui a donné un festin, et donc il y a une fête, etc. Et la princesse locale va inviter ce beau grec qui s'appelle Protis, et elle va l'inviter à venir partager la fête des autochtones. Et évidemment, il est beau, il est grec, elle va tomber amoureuse, elle va l'aimer, ils vont se marier, et c'est ce qui va fonder Marseille. C'est le mythe fondateur de Marseille.
Et pourquoi c'est si important d'insister sur ce mythe ?
Parce que l'intérêt du mythe, c'est qu'il existe toujours. Le mythe, il se reproduit tout le temps. Le mythe, c'est quelque chose qui est présent. C'est pas l'histoire passée, c'est quelque chose de présent. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui, Marseille se fonde entre des gens qui sont là, et des gens qui arrivent d'ailleurs. Et ça continue à fonder Marseille. Marseille ne se fonde que par l'accueil de gens qui viennent d'ailleurs. Sans quoi, c'est plus Marseille. Voilà. Pour que ce soit Marseille, il faut qu'il y ait des autochtones qui en rencontrent d'autres qui viennent d'ailleurs. Et ce mythe-là, il faut le raconter, parce que la richesse de ce pays, c'est précisément la rencontre de gens venus d'ailleurs.
Alors, quand on parle d'anthropologie et puis de ces populations qui sont à la fois liées par la Méditerranée et à la fois étrangères les unes aux autres, malgré tout, Christian Salençon, vous l'avez souligné déjà à plusieurs reprises, il y a eu des violences, il y a eu des conflits et il y a encore des conflits, des convoitises, des invasions, des massacres. Ce n'est pas un long fleuve tranquille, si j'ose dire, l'histoire de la Méditerranée. Parce que même si cette Méditerranée lie les populations, il y a quand même toujours cette histoire d'étrangeté, le risque que l'autre soit un étranger pour moi.
Alors on est encore dans le paradoxe, c'est-à-dire l'étranger il fait peur, comme
il inquiète, comme
toujours fait un peu peur, et en même temps il est désirable. Et la princesse qui désire le beau grec, c'est l'étranger qui est désirable. L'étranger est désirable, on en a besoin de l'étranger. L'étranger, il nous constitue comme un bassin méditerranéen.
Pourquoi est-ce qu'il n'est pas qu'une menace ?
Il n'est pas qu'une menace parce qu'il est porteur de quelque chose qu'on n'a pas. Voilà. Il va amener des choses qu'on n'a pas. Et c'est ça, la Méditerranée. Que ça se passe dans bien, amoureusement, comme mon mythe marseillais, ou que ça se passe dans le conflit, il va y avoir un enrichissement des populations. Et il y a un enrichissement par la venue de l'autre. Ça va donner, on en reparlera plus tard, mais ça va donner un autre regard sur l'immigration que ce que j'entends raconter aujourd'hui. Quand vous vous baladez à Marseille, vous ne savez pas si vous n'êtes pas plus étranger que les autres. Hein. Être marseillais, ce n'est pas compliqué. Hein. Il suffit d'aimer l'OM, et au bout d'un an, on est marseillais. Hein. Et ça, c'est un peu une galéjade que je raconte, mais c'est pour faire comprendre. Il n'y a pas une identité dans laquelle il faudrait rentrer, se creuser, épouser toutes les formes, le contour.
Certains s'en inquiètent. Il y a des quartiers de Marseille où on vous parachute là, vous ne savez pas si vous êtes à Alger ou dans une ville du sud de la France.
Oui.
Est-ce qu'il faut s'en inquiéter, selon vous,
non,
ou pas ?
Non, il faut s'inquiéter des violences qu'il peut y avoir, des débordements qu'il peut y avoir, ça, oui. Mais de l'étrangeté, au contraire. J'allais presque dire, moi, ça me manque si je vais dans un endroit où il n'y a pas trop de mélange de couleurs. Pourquoi ça inquiéterait ? En soi, ce n'est pas inquiétant. Les violences sont inquiétantes. Le fait d'avoir enfermer des gens dans des ghettos du point de vue urbanisme, ça, c'est des grosses erreurs qui ont été faites. Ça, c'est inquiétant. Ça a des mauvais effets. Ça a des effets délétères qu'on connaît, qu'il faut dénoncer, la drogue et tout ce que vous voulez. Je ne tais rien de tout ça. Mais la Méditerranée se constitue parce qu'il y a des gens qui se promènent dans la Méditerranée et qui vont d'un endroit à l'autre. Voilà. Et on va le reprendre, ça, avec l'immigration, parce que c'est trop important. C'est un trait essentiel de l'anthropologie méditerranéenne.
Qu'est-ce que la théologie de la Méditerranée à laquelle vous contribuez. Quel éclairage est-ce qu'elle apporte sur tout ce que vous venez de dire là, cette réflexion théologique?
Je vais vous raconter une histoire. Les Saintes Maries sont parties de Palestine et elles sont arrivées au bord de la Méditerranée avec Lazare, hein, aux Saintes Maries de la mer. Voilà. Et puis il y avait Marie-Madeleine aussi avec elle. Ils sont arrivés par la mer. Si bien que l'Évangile est arrivé par la mer. Voilà, c'est l'histoire que je raconte de temps en temps. L'Évangile est arrivé par la mer. Et donc, théologiquement, il faut faire attention de tout ce qui nous arrive par la mer. L'Évangile nous est déjà arrivé par là. Peut-être qu'il y a des paroles qui nous arrivent par là. Peut-être qu'il y a une vie qui nous arrive par là. Voilà. Donc, la théologie, je l'ai dit de manière un peu comme mon mythe de Philippe Potiche. Je ne suis pas dupe, bien sûr, que je raconte une histoire, une légende, si vous voulez, une grande légende provençale que les Provençaux adorent. Et une légende, c'est quelque chose qui demande à être lu.
C'est arrivé par la mère des trois Maries et de Lazare.
Et voilà. Mmh. Et tous les 2 février à Marseille, on fête l'arrivée de l'Évangile par la mer. Voilà, avec tous les jeunes qui veulent bien venir, on fait une grande fête de nuit, on accueille tout le bateau le matin à 5h du matin, un bateau qui apporte l'Évangile, et on monte célébrer avec cet Évangile qui nous arrive de la mer.
Et théologiquement, ça dit quoi, ça?
Ça dit que l'Évangile vous arrive par l'autre. Il vous arrive par les autres qui sont autres.
Il n'arrive pas que par l'Église?
Ah ça, l'Évangile, il n'arrive pas que par l'Église, non. Non, il n'arrive pas que par l'Église, surtout pas même.
Parce qu'elle en est dépositaire et c'est elle qui en est la...
Non, elle n'est pas dépositaire de ça, elle est dépositaire des textes, elle est dépositaire des rites, voilà. Mais Dieu, lui, il se révèle lui-même. Ça, c'est le Concile qui l'a dit, c'est pas l'Église qui révèle Dieu, c'est Dieu qui se révèle lui-même. Il a pris soin de s'auto-communiquer, comme on dit, la constitution dogmatique sur la révélation. Donc, l'Évangile, il arrive par Dieu, il arrive par le Christ et par le Saint-Esprit, il n'arrive pas par l'Église.
Est-ce qu'il arrive par celui ou celle qui n'est pas chrétien?
Il arrive par celui ou celle qui n'est pas chrétien, et parfois de manière privilégiée par celui ou celle qui n'est pas chrétien. Il arrive par l'autre. Il arrive par l'altérité, car Dieu, c'est l'autre et c'est même le tout autre. Donc il arrive de préférence par l'altérité. C'est dommage de se fermer à l'altérité, parce qu'on risque de se fermer à l'autre, au tout autre. Voilà. Et alors l'Église, elle a sa place dans mon histoire de l'Évangile qui arrive, qu'on arrive à 5h du matin. Vous l'avez, l'Église? Elle est au bord du quai. Elle le recueille. Elle le recueille, l'Évangile, et elle va le célébrer. Donc elle est là pour l'accueillir. Mais... Dieu, il arrive par lui-même. Regardez aujourd'hui tous les catéchumènes qu'il y a. Vous croyez que c'est l'Église qui les a engendrés? Les catéchumènes, ils viennent. Il y en a qui n'ont jamais rencontré l'Église. Et ils viennent demander le baptême. Voilà. C'est Dieu lui-même.
C'est un mystère?
Bien sûr. C'est le mystère de Dieu, de la révélation de Dieu. Il a pris soin de se révéler lui-même. Voilà. C'est le numéro 2 de la révélation chrétienne. Hein. Je dis rien d'exceptionnel. Hein. Voilà.
Non, l'intérêt de laisser la porte ouverte.
Eh oui, chaque fois qu'on ferme la porte, on se prive soi-même. Mais on se prive soi-même.
C'est la fin de ce 2e épisode. Dans le prochain épisode, nous aborderons des questions liées à la justice, aux inégalités et la grande question de l'espace méditerranéen comme lieu de migration. Alors à bientôt.